15 секунд голяя гэх килин күтэ. Bonsoir et bon début de semaine à tous. Le syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques déplore les irrégularités constatées dans la passation et la publication des résultats de l'examen d'État. Pour le syndicat, les performances réalisées par certaines écoles à l'examen d'État sont en contradiction avec le niveau de l'enseignement relativement bas dans les écoles. Sur quels éléments se base le syndicat pour formuler ces accusations? Que faire pour améliorer la qualité de l'enseignement au Congo? C'est notre thème de ce soir. Pour en parler, je reçois dans cette émission Fabien Bouetouké-Lagneau, directeur provincial de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel Kinshasa Ouest. Il est en ligne. Bonsoir, monsieur Fabien Bouetouké-Lagneau. On me signale que monsieur Bouetouké-Lagneau n'est pas encore en ligne dans ce studio avec moi. Jean Bosco Pouna, secrétaire général du syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques. Bonsoir monsieur Pouna.
Bonsoir madame.
Et le professeur Masiala Masolo, vice-ministre honoraire de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel et de l'enseignement supérieur et universitaire, ancien conseiller du chef de l'État et directeur exécutif du Centre congolais de l'enfant et de la famille. Bonsoir professeur.
Bonsoir madame.
Vous êtes très nombreux à réagir au terme de ce soir. C'est le cas de Raymond Kasangala de Kinshasa. De par la composition des examens d'État, c'est-à-dire le choix multiple, même une personne qui n'a pas étudié a la chance de réussir. À quel niveau la spécialité est-elle organisée? Le mieux serait de redorer le blason de l'enseignement qui, du reste, est à un niveau très bas. Didier Balwenga de Johannesburg en Afrique du Sud. Pourquoi l'État ne prend pas ses responsabilités en main afin de restructurer le secteur de l'enseignement dans notre pays pour que l'on n'entende plus parler des pareilles situations des baisses de niveau de l'enseignement en RDC? Merci de nous suivre partout en RDC sur la fréquence FM et à l'étranger sur www.radioopati.net. Bienvenue à tous pour cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 678 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Assemblée générale dernièrement à Kinshasa du syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques. Au cours de cette rencontre, les enseignants catholiques ont évalué les activités scolaires de l'année 2009-2010. Selon le syndicat, cette année scolaire a été caractérisée par le problème de prise en charge des frais scolaires par les parents. Conséquence, plusieurs élèves ont été à même fois chassés de l'école faute de paiement à temps du Minerval. Le syndicat a déploré également les irrégularités constatées dans la passation et la publication des résultats de l'examen d'État. Pour le secrétaire général du syndicat, les performances réalisées par certaines écoles à l'examen d'État sont en inadéquation avec les niveaux d'enseignement relativement bas dans ces écoles. Il y a avec nous dans ce studio M. Jean Bosco Pouna, vous êtes le secrétaire général du syndicat. Sur quels éléments se base le syndicat pour formuler ces accusations?
Oui, merci madame pour la question que vous me posez. Et il faut dire que c'est une assemblée générale des enseignants que nous avons eu à tenir et qui a évalué. C'est une assemblée générale des enseignants. Quels sont les éléments sur lesquels...
Enseignants catholiques ou tous les enseignants?
Syndicat national des enseignants des écoles conventionnées catholiques. Et il faut que cela soit rappelé. Depuis la tenue du congrès du syndicat, eh bien, le syndicat est ouvert à d'autres réseaux. Et donc, nous avons aussi bien les enseignants d'autres conventions qui sont affiliés dans notre syndicat.
Alors, répondez à la question.
La question que vous me posez me renvoie au processus éducatif. Je voudrais rapidement rappeler ici que dans le processus éducatif, outre la partie, l'étape appelée programmation, nous avons l'étape de la transmission des matières et l'étape de l'évaluation. Et donc, les deux étapes sont liées. On ne peut pas séparer l'étape de la transmission des connaissances aux élèves et l'étape de l'évaluation. Après que l'enseignant ait fait le travail de transmettre les connaissances, il doit évaluer. Alors, qu'est-ce qui se remarque aujourd'hui? La plupart des élèves sont chassés de l'école pour n'avoir pas à payer les frais à temps, et ce sont les mêmes élèves que les enseignants évaluent après. Et lorsqu'ils réalisent des performances, nous avons beaucoup de doutes. Le premier élément sur lequel je reviens, vous savez que l'ordonnance loi numéro 092/88 du 7 juillet 1988 qui institue l'examen d'État donne les conditions pour qu'on puisse déclarer un élève comme étant un candidat finaliste. Oui, mais les conditions, c'est que cet élève doit être un élève qui remplit les critères, c'est-à-dire qui a un dossier. On a contrôlé son curriculum scolaire par des inspecteurs. Il a commencé l'école normalement jusqu'à arriver en sixième année. Mmh. Cette étape-là déjà est émaillée d'une fraude inacceptable.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, vous trouvez des écoles aujourd'hui, par exemple, qui présentent 700 élèves à l'examen d'État. C'est inadmissible. Une école avec 700 élèves, c'est-à-dire vous avez plus ou moins 200, 250 élèves par option. Et ça, c'est vraiment du véritable commerce. Et le SINECAT, en tant que syndicat, qui est en train de promouvoir les valeurs, est en train de dénoncer. Toujours, l'ordonnance revient sur les candidats qui ne sont pas contents des performances réalisées lors de l'examen d'État. Ils peuvent revenir pour améliorer les pourcentages. Ce sont des choses qu'on ne voit plus. Parce que les élèves savent bien et bien, il faut être en sixième année, il faut payer les frais exigés par les promoteurs qui cherchent les 100%, en quête des 100%, et bien on aura le diplôme. Voilà un peu les conditions qu'un élève finaliste doit remplir. Et nous avons également les candidats autodidactes. La plupart de ces candidats autodidactes ne se voient plus parce que finalement ils se versent dans les écoles pour être des candidats réguliers et faire des performances au niveau de l'examen d'État. Donc au niveau déjà du recrutement des élèves, il y a un véritable problème.
Donc, pour que je comprenne bien, il y a d'abord le nombre élevé des élèves qui se présentent à l'épreuve de l'examen d'État, et puis la corruption, comme vous dites, pour faire le 100%. Et donc, les deux critères, c'est ça qui vous pousse à dire qu'il y a eu irrégularité?
Non, c'est le maximum, madame. Parce que déjà, lorsque vous prenez ces élèves-là, qui n'ont pas un cursus normal, vous comprenez déjà que ce sont des charlatans qui arrivent et qui amènent de l'argent. Et aucun inspecteur ne peut nous contredire, ce sont des faits que nous vivons sur le terrain. Mais alors, il faut prendre également...
Mais à qui est la faute en ce moment-là? Est-ce que c'est la faute revient aux élèves ou bien aux enseignants même?
Non, mais la société est en crise. Hein? La faute revient d'abord à l'évaluateur. Lorsque nous parlons de l'examen d'État, l'évaluateur, c'est l'inspecteur. Et donc, si l'inspecteur, déjà à ce niveau, se compromet, eh bien, il y a problème. Donc, ça c'était l'étape du recrutement, mais il y a également l'étape de la composition. Comment voulez-vous, madame, que ce soit les mêmes compositeurs? Eh bien, nous, au niveau du SINECAT, nous disons non. Il ne faudrait pas qu'on ait les mêmes inspecteurs experts et qui continuent à composer les examens d'État 5 ans, 6 ans. Non. Quelque part, il peut y avoir usine et il peut y avoir fraude. Mais l'autre étape, madame, c'est l'étape de la passation. Et là, c'est un véritable folklore. Nous ne pouvons pas continuer à comprendre cela. Les enseignants qui étaient commis à cette tâche, qui surveillaient l'examen d'État, au lieu de surveiller les élèves, eh bien, ils étaient en train de surveiller peut-être le chef de centre. Le chef de centre aussi, qui était déjà dans le coup. Ça, ce sont des choses que les enseignants qui ont surveillé ont témoigné. Donc, on a favorisé la collaboration dans beaucoup de centres pour que les enfants travaillent et qu'ils puissent s'échanger des réponses. C'était comme ça au niveau de la passation.
Merci Jean Bosco Pouna, nous vous gardons encore dans l'émission. Monsieur Fabien Bouetou Kélanio, vous êtes directeur provincial de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel Kinshasa Ouest. Vous représentez le ministre dans cette émission. Comment vous réagissez au constat fait par le SINECAT?
J'ai suivi, madame, et une chose est vraie que les amis du SINECAT qui ont évalué l'année, ça n'en avait pas qualité. Par le simple fait que, d'abord, l'existence de ce syndicat dans les SINECAT. Le SINECAT, c'est un syndicat à problème. Nous disposons des textes, la lettre du gouverneur de la ville de Kinshasa, qui interdit à ce que ce SINECAT puisse se réunir, jusqu'à ce que les magistrats devraient trancher. Mais je suis sûr que la France, ils se sont réunis, et ça, c'est regrettable. C'est en violation flagrante des textes officiels qui existent. quant au débat, c'est-à-dire de matière débattue dans cette rencontre.
Oui, on dit régularité constatée lors des épreuves de l'examen d'État.
Et il n'y a pas eu d'irrégularité. L'examen d'État, c'est un enjeu important. Et pour preuve, n'est-ce pas, nous sommes tous pédagogues. Et c'est pour moi un pédagogue. Il sait très bien que la pédagogie de réussite exige à ce qu'on puisse atteindre 75% de réussite. N'est-ce pas? Or, cette année, on a même atteint 75% de réussite. Donc, quelque part, nous, en tant qu'organisateurs du système, nous sommes très inquiets parce qu'on n'a pas atteint ce seuil-là. Nous serions très, très, très à l'aise si on avait dépassé 75% de réussite. Donc, la faute dont on fait allusion, on ne sait même pas si c'est à quel niveau. Il n'y a pas une faute. La passation, cette fois-ci, nous avons accordé une importance capitale aux surveillants. Ce sont les enseignants, c'est-à-dire, ce sont les syndiqués de M. Pouna qui ont surveillé l'examen d'État. Si on se rend compte qu'il y a eu une défaillance, je pense que c'est eux qui doivent rectifier les signes. Mais, à notre niveau, il n'y a pas eu défaillance. Tout s'était déroulé normalement.
Peut-être que vous n'avez pas été dans les centres où se sont déroulées ces épreuves-là, monsieur.
Non, mais moi-même, je suis président du comité provincial, Kinshasa Ouest.
Et puisque ce sont les surveillants eux-mêmes qui ont dénoncé ça.
Je ne pense pas. Les surveillants, cette année, c'est une année exceptionnelle. Nous avons commencé à récupérer les enseignants pour surveiller l'examen d'État. Ils sont allés dans des centres avec une aspiration assez importante. Ils se sont dit, écoutez, comme on nous avait négligés, et maintenant qu'on fait de nous réhabiliter dans nos droits, nous devons honorer les autorités de l'FSP. Donc, de ce côté-là, madame, soyez rassurée que ce sont des propos qui ne tiennent pas debout et ce sont des montages inutiles. Il y a eu l'examen d'État, c'était dans de très bonnes conditions. Nous avons fait les suivis et on a vérifié à gauche, à droite, il n'y avait pas de problème.
Et par rapport au nombre élevé des participants à cette épreuve?
Il n'y a pas un nombre élevé des participants. Là aussi encore, c'est des mensonges. Vous savez, madame, il y a ce qu'on appelle l'effectif maximum et l'effectif minimum dans une salle de classe. Vous verrez, dans toutes ces écoles-là, on a accepté jusqu'à 55 élèves. Tout simplement. Si l'école a fait agréer 6, plutôt 2 ou 3 classes de 6e, tant mieux. Mais néanmoins, nous nous respectons les effectifs maximum et les minima.
Et vous avez fait le contrôle de chaque finaliste?
Oui, les inspecteurs ont fait un contrôle, comme il m'a appelé le CFS. C'est sur base de CFS que nous retenons les candidats dans ce matin d'examen d'État. Et ces candidats sont réellement ceux qui ont mené ou ceux qui ont fait un cursus normal. Ils ont fait la première année secondaire, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et voilà, sixième. Ils présentent leur examen d'État.
Alors, les invités avec moi dans le studio ne sont pas d'accord avec vous. Donc, pour vous, tous les faits dénoncés par le syndicat ne sont pas fondés, c'est ça?
Ce sont des faits qui ne sont pas fondés parce que moi, je suis du terrain. Vous savez, maman, moi je suis du terrain. Moi je peux vous dire, par exemple, nous avons combien d'élèves dans notre province éducationnelle et combien ont réussi. J'ai ces éléments-là. Et à partir de tous ces éléments-là, je peux mener une étude, une analyse comparative en vue de vérifier les indicateurs éducatifs.
Voilà, merci monsieur Fabien Boutoukenanio. On vous garde encore dans cette émission. Professeur Massiala Masolo, vous êtes vice-ministre honoraire de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel et de l'enseignement supérieur et universitaire. Comment vous analysez cette situation, cette dénonciation faite par le syndicat par rapport aux irrégularités constatées lors des épreuves de l'examen d'État?
Merci madame pour la question. Je commencerai d'abord par rappeler que je ne lis aucun texte de dénonciation. Donc, je vais parler des éléments qui ont été évoqué au cours de cette émission. Je veux aussi rappeler ce qu'est le proverbe, ou sous-proverbe, je ne sais pas, délimité, vient de dire. Tous ont parlé de l'éducation, ou ont parlé de l'esprit et de l'examen d'État, l'option, je ne sais pas de quelle option il s'agit, c'était l'édition 2010. Et vous m'avez surpris cet après-midi pour m'associer à cet entretien que je trouve important. Si je peux dire d'abord du principe de l'examen d'État lui-même, le principe est intervenu pour tester la création du cycle d'orientation. Et la première édition était 1967. La deuxième édition de l'examen d'État en 1968. C'est mon édition. Il y a eu beaucoup d'évolutions entre 1967 et 2010. Les évolutions peuvent être citées, notamment les formes, n'est-ce pas, les formes de modules. À notre temps, il y avait un module pratique pour les pédagogues, pour ceux qui étaient dans des sections pratiques, aller enseigner dans une salle de classe, les inspecteurs sont assis et cotent l'élève ou les candidats. Deuxième, maintenant je pense que ça se passe de la même manière, mais je n'ai plus souvenir. C'est à quelques temps, depuis quelques temps que je n'ai pas participé, je suis déjà invité à l'évaluation. Deuxième innovation, notre temps, il n'y avait pas des autodidactes. Et depuis quelques temps, il y a des autodidactes. Et c'est comme cela que je m'inscris à FOC, c'était la déclaration qui a été faite par le ministère, que seuls les élèves qui ont été en premier, en deuxième, en troisième, en quatrième, et il a même hésité en sixième, qui participe à l'édition de l'examen d'État. Donc, il y en a même qui sont en quatrième et qui se proposent pour participer à l'examen d'État, l'édition de l'année qu'ils ont choisi, comme autodidacte. Et il y a des vacataires, des personnes qui travaillent, qui n'ont pas pu avoir le diplôme d'État et qui reviennent pour participer afin d'avoir ce titre scolaire qui est important. J'évoque un autre fait qui est vrai et que l'examen d'État est venu essayer de niveler toutes les sections, toutes les options et tous les réseaux. L'enseignement catholique, l'enseignement protestant, l'enseignement kimbanguiste et depuis quelque temps l'enseignement islamique et le col officiel. Vous voyez, tous, qu'ils soient au Katanga, qu'ils soient à Lukula chez moi, qu'ils soient à Kinshasa, ils reçoivent à la fin du cycle le même titre scolaire. Et c'est comme cela que tous les examens sectoriels, n'est-ce pas, des écoles, avaient été supprimés pour que tout le monde qui a suivi le programme national, j'insiste sur ça, le programme national puisse terminer avec le même titre, même privilège, c'est pas des privilèges, même droit. Vous voyez, même droit, parce qu'il y avait une forte discrimination, une forte discrimination, sélection et tout ça. L'examen d'État est venu couper court. Donc, c'est un fait important. Et troisième innovation que je voudrais signaler, c'est que l'examen d'État n'était plus seulement l'affaire du ministère de l'enseignement primaire et secondaire, c'est l'affaire de tous les acteurs éducatifs. Les parents ont une responsabilité lorsque l'édition est annoncée. Le responsable politico-administratif du coin où se passe l'examen a l'obligation, c'est pourquoi vous voyez même des policiers qui viennent pour encadrer et les candidats et les surveillants et tout le monde, en fait, pour le système. Le ministère, bien sûr. Aujourd'hui, je constatais, troisième innovation qui est difficile, c'est la quotité d'argent que les parents, en fait, les candidats, doivent verser pour que l'édition soit organisée et soit finalisée. Et ça, c'est une difficulté réelle. Ici, il a été évoqué la corruption. Bon, la corruption, il faut un corrupteur et un corrompu. Et c'est toujours difficile de savoir qui a commencé, voyez. Mais en 2003, je suis vice-ministre à l'éducation nationale, chargé de l'enseignement supérieur universitaire, mais j'avais une forte collaboration avec le professeur Koutoumissa, qui était le titulaire du ministère. Nous avons été contraints d'aller à Kazavubu, commune de Kazavubu, et surprendre des parents, surprendre des élèves, surprendre même des commis de mortels, qui allait acheter des titres scolaires chez un monsieur qui avait une imprimerie. Et donc, à la responsabilité n'est pas seulement au ministère, mais la responsabilité est aussi au niveau des parents. Et ici, je suis désolé que le syndicat des enseignants des écoles conventionnelles catholiques n'ait pas surpris, n'ait pas dénoncé, n'ait pas suspendu leurs activités alors qu'ils ont constaté ce qui s'est passé pendant qu'ils étaient présents dans le centre. De monstruosité qu'on appelle irrégularité. Et donc ça, c'est déjà une difficulté. Et je ne suis pas convaincu qu'il y a 700 élèves dans une classe, parce que l'examen d'État est organisé par centre. Et le centre reçoit les candidats qui viennent de plusieurs écoles et qui participent à l'édition ensemble.
Merci, professeur Machiala. Jean-Bosco Puna, monsieur Fabien Bekikelanio, qui représente le ministre dans cette émission, rejette en bloc tous les faits que vous dénoncez. Il y a même le professeur qui vous demande pourquoi vous n'avez pas dénoncé ces faits-là pendant que ça se passait dans le centre des passations de ces épreuves.
Madame, le souci du syndicat, lorsqu'il dénonce, c'est pour que le système puisse être amélioré. Moi, je suis enseignant. Lorsque j'arrive à l'étape de l'évaluation, au niveau de mon école, quand j'évalue les élèves, et s'il y a des erreurs au niveau de l'évaluation, l'enseignant s'attriste, parce qu'on ne peut pas tolérer des erreurs au niveau de l'évaluation. C'est une étape très délicate et très, très importante. Nous avons, avant la passation de l'examen d'État, adressé une demande d'audience à son excellence, monsieur le ministre. Parce qu'en tant qu'enseignant, nous avons souhaité lui traiter notre collaboration. Parce que la fraude, elle est là. Et il faut être syndicat pour avoir le courage de le dénoncer. Eh bien, le ministre ne nous avait pas répondu. Mais lors de la journée nationale de l'enseignement, le 30 avril, nous avons demandé au ministère de pouvoir associer les enseignants pour qu'ils soient surveillants. Parce que la loi dit que les enseignants de l'école primaire sont d'office surveillants. Parce que nous avons dénoncé la politique du ministère et de l'inspection qui consistait à recourir aux neveux, aux frères, aux commerçants en vue de pouvoir suivre l'examen d'État. Je crois que cette étape a été franchie et les enseignants de l'école primaire avaient été sollicités pour cette fin. Mais madame, vous savez que l'examen d'État, avant que nous n'arrivions à la session ordinaire, il y a la session hors session. Et au niveau de la session hors session, eh bien, il y a également des points. Là également, mais il y a à boire et à manger. Moi, j'ai été examinateur à l'examen d'État. Et nous avons des enseignants affiliés au syndicat qui sont examinateurs. Cette étape se passe de manière regrettable. C'est de la pure formalité. Vous avez le français oral. Vous avez les jurys pratiques. Vous avez la dissertation. Ce sont des étapes où les enfants, tous, dans la majorité, réussissent. Et les promoteurs qui sont en quête de 100%, pour qu'il y ait suffisamment d'élèves les années qui vont suivre, eh bien, ils sont là en collision avec les inspecteurs mal payés, malheureusement. Et donc, la fraude, j'ai dit que la fraude commençait déjà au niveau de cette fête, dont a parlé le directeur provincial. La fraude nous suit au niveau des hors session, et c'est beaucoup de points qui sont donnés à ce niveau-là. Et si cette étape-là n'est pas rationalisée, laissez-moi vous dire que la fraude, et c'est rapide, ce que nous sommes en train de constater. J'ai compris en disant, madame, que les parents, cette année, n'ont pas été d'accord avec les points que certains de leurs enfants ont réussi. Là, il y a problème. Les enseignants, il y a même des élèves qui se disent, mais comment moi j'ai pu réussir? Comment j'ai pu avoir ce pourcentage? Et vous avez même suivi.
On ils ne sont pas d'accord parce que les élèves ont eu beaucoup de pourcentage.
Oui, quelque part, vous avez suivi, même on a ironisé pour dire que c'était le diplôme du cinquantenaire. En tant qu'enseignant, autorisé à enseigner, je ne peux pas voire mourir l'examen d'État. C'est une dépréciation progressive de l'examen d'État que nous sommes en train d'énoncer. Le souci, c'est que le ministère puisse rationaliser et corriger là où il y a des erreurs. Parce que les erreurs sont là. Il y a des soupçons de corruption qui ont même pesé sur certains inspecteurs qui étaient en train d'être poursuivis. Je crois que le directeur provincial aura la franchise de pouvoir reconnaître que le système est mauvais. Il faut, nous ne sommes pas contents du système de l'examen d'État actuel. Il faut absolument qu'on puisse repenser pour que les choses soient vues autrement.
Monsieur le directeur provincial, votre réaction? Il faut améliorer le système.
Le système est en train d'être amélioré chaque année. Vous savez, ils ont fait allusion à la partie hors session. Nous pouvons vous demander de venir vérifier le code que cet enfant a obtenu en hors session. Vous allez vous rendre compte qu'écoutez, c'est pas facile. Quand on fait allusion, par exemple, aux autodidactes, mais les autodidactes, dans les conditions actuelles, ce sont des enfants qui ont fait un cursus normal, mais n'ont pas pu décrocher un diplôme d'État, mais après, ils se rattrapent en venant présenter l'examen d'État. Donc là, soyez rassurée, madame, que les choses se sont faites correctement. Et le système ici, quand on fait allusion aux inspecteurs, ainsi de suite, non. Le professeur Machal l'a dit, c'est le partenariat éducatif qui intervient dans cette évaluation. C'est le partenariat. Tout le monde est impliqué dans l'organisation de l'examen d'État. Et cette implication-là de tout le monde nous permet de ne pas avoir un seul son de cloche. Ça nous permet d'avoir plusieurs sons de cloche, tout le monde y est, et on échange, on évalue. Les diplômes de cinquantenaire, ça c'est grave. Quand on tient des propos contraires, qu'il y a des enfants qui n'ont pas été d'accord avec leur point. Non.
Les dames qui étaient sortis de leur pourcentage.
Non. Les efforts ont été fournis au niveau des établissements scolaires. Vous savez, depuis l'arrivée du ministre Mater Wangu Famba, nous avons converti l'école en centre de formation pédagogique. Les enseignants aujourd'hui, les chefs d'établissement aujourd'hui, sont dotés de compétences telles que ils ne peuvent pas, n'est-ce pas, ils ne sont plus, comment je peux, sous-qualifiés. Il n'y a plus de sous-qualifiés dans nos écoles. Les programmes, bien sûr, n'ont pas changé, mais par rapport aux formations, les enseignants sont suffisamment formés et c'est ce qui fait que les enfants aussi se remettent facilement à niveau. Les enseignants sont qualifiés scientifiquement et pédagogiquement et sur place dans des écoles, ils se comportent comme tels pour que les enfants acquièrent des compétences qui leur permettent de faire face à cette évaluation terminale. L'examen est une évaluation terminale. Ce n'est pas une évaluation, ordinaire, non. C'est une évaluation terminale. On évalue l'enfant en fonction des contenus de matière qu'il a étudié durant tout son cursus scolaire. Et lorsque l'enfant a franchi l'étape de la première année, il est passé en deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Qu'est-ce qui va le déranger à faire face à l'examen d'État? Moi, je pense que c'est une façon tout simplement de chercher la bête noire. Mais une chose est vraie, qu'un travail de qualité est en train d'être abattu. Pour preuve, tous ces enfants qui ont réussi ici, quand ils vont à l'étranger, mais ils se distinguent. Il y a plusieurs qui sont en Inde aujourd'hui. Il y a plusieurs qui sont à Tunis aujourd'hui. Il y a plusieurs qui sont à Djobour aujourd'hui. Mais posez la question à ses parents. Ils vous diront comment ils ont été distingués. Donc, nous ne pouvons pas accepter à ce que les gens puissent faire apporter atteinte à notre système d'évaluation. Les choses se déroulent correctement.
Sans corruption, sans fraude.
C'est impeccable, donc on n'a pas à réfléchir autour de ça. Il y a des aménagements à faire, des améliorations à mener. Je sais que tout système peut être soumis à des améliorations. Mais, quant à dire qu'il n'y a pas eu, il y a eu ça, pour l'année, pour l'édition 2010, moi je pense que non, on ne peut pas nous convaincre. Parce que nous-mêmes, nous sommes sur le terrain, Nous-mêmes, nous voyons ce qui se passe, nous-mêmes, nous évaluons les systèmes et on se rend compte que c'est un système qui produit du bon fruit.
Merci, M. Fabien. Oui, tout est l'agneau. Que faire pour améliorer la qualité de l'enseignement en RDC? C'est notre deuxième thème de ce soir, mais avant de poursuivre, le rappel de nos contacts pour ceux qui veulent encore réagir.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Est-ce que dire à ce jour du niveau de l'enseignement en RDC pour le professeur Jean-Paul Yaouidi, expert en sciences et l'éducation, le niveau de l'enseignement a beaucoup baissé. Parmi les causes, il cite la destruction de la base, c'est-à-dire la formation au cycle primaire. Conséquence, ajoute-t-il, il y a aujourd'hui des élèves qui achèvent leur cycle secondaire, voire même universitaire, mais qui présentent des graves lacunes. On écoute le professeur Jean-Paul Yaouidi, doyen de la faculté de psychologie et de sciences de l'éducation à l'Université pédagogique nationale au téléphone d'Alain Irung.
Vous savez, lorsque nous devons parler du niveau de notre enseignement, nous devons considérer certains indicateurs. En ce qui concerne l'enseignement primaire uniquement, on sait très bien que l'enfant qui termine la sixième année primaire doit être capable de lire, d'écrire, de calculer, de compter. Oui, mais puisque cet indicateur-là, nous constatons une certaine différence dans les chiffres de nos écoliers qui terminent le cycle primaire. C'est-à-dire qu'il se pose un réel problème du niveau de notre enseignement. Parce que ce que la société attend, ce n'est pas ce que la société est en train de recevoir. Mais si déjà le primaire est complètement détruit, qu'est-ce qu'on peut attendre du secondaire? Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'université? Nous, nous sommes à l'université. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est vraiment grave qu'on ait des étudiants au niveau de l'université, au niveau des licences, incapables d'écrire leur nom. Vous voyez la différence? Ce n'est pas au niveau de l'université. Ce n'est pas au niveau du secondaire, mais c'est au niveau de l'école primaire. Par le fait que l'on a clochardisé l'enseignant, par le fait que l'enseignant vit dans l'incertitude du lendemain, par le fait que l'enseignant n'a pas satisfait les besoins primaires, vous ne pouvez jamais demander à celui qui n'a pas satisfait les besoins primaires de s'intéresser aux choses de l'esprit. Vous voyez les examens d'État. Nous avons des élèves qui terminent avec 85% en réalité incapables de lire un texte, incapables de rédiger un texte.
Professeur Marcel, le niveau de l'enseignement a baissé selon le professeur Yaouidi. Un élève qui termine avec 85% à l'université, il n'arrive pas à lire. Comment on peut expliquer ça?
Je ne peux pas l'expliquer, mais je vous rappelle que de longues années maintenant, de nombreuses années en arrière, des savants dans le domaine de l'éducation se sont même posé la question de savoir s'il faudrait continuer à entretenir des écoles. Ivan Illich a bien voulu qu'il y ait une société sans école, à la fois à cause de la vitesse, n'est-ce pas, du changement, et en même temps d'inadéquation avec le programme que l'on met en place et l'attente de la communauté. Ici, je rappelle la société civile qui est composée des opérateurs économiques qui veulent des hommes et des femmes capables d'entrer dans une profession et de se réaliser. Aujourd'hui, c'est très difficile. Très difficile, Yaoudi, le jeune professeur Yaoudi a bien eu raison. L'école primaire, c'est pour apprendre à lire, à écrire et à compter. Et je vous l'avoue, premier gradué, j'enseigne en premier gradué, et à l'IPEN et à l'Université protestante au Congo. Mais j'ai des difficultés, je ne veux pas dénigrer mes étudiants, mais beaucoup n'ont aucune capacité d'écrire. C'est juste leur nom. Ça, ils écrivent le nom, effectivement. Mais si vous leur demandez d'écrire une phrase en français, c'est très difficile d'obtenir quelque chose.
Oui, mais comment on peut comprendre ça? Comment on peut expliquer ça?
Comprendre ça, comment expliquer, c'est que la base a été faussée. Ce n'est plus, et je ne suis pas d'accord avec le ministère lorsqu'il dit que tous les enseignants du primaire et du secondaire sont qualifiés. Peut-être à Kinshasa, peut-être dans quelques communes de Kinshasa, mais dans l'ensemble du pays, je vous l'avoue, et on peut même être à l'issue, les enseignants ne sont pas tous qualifiés. Être qualifié signifie un pédagogue qui enseigne, et pas un biologiste à qui on a donné la première, ou la deuxième, ou la troisième primaire. Non, il a la technique, et non, il a la matière, mais il n'a pas forcément l'art. Parce que la pédagogie, c'est un art. Vous voyez, la par la transmission, mais plutôt aller éveiller les compétences qui sont endormies dans une personne qui peut être bien outillée.
Oui,
et j'étais à Guémena. Là, je dois citer librement, j'étais à Guémena il y a quelque temps, mais j'arrive dans une classe, comme je suis toujours curieux, je demande où est la répartition des matières. Le pauvre enseignant, il était embarrassé. Il dit non, nous n'avons pas ce document-là depuis de longues années, nous n'avons pas les documents. Alors qu'est-ce qu'il enseigne? Il essaye d'inventer chaque jour le processus, il essaye d'inventer chaque jour le contenu du programme qu'il doit interpréter. Donc ce qu'il a appris lui il y a 30 ans, 40 ans ou 50 ans, c'est ce qu'il continue. Le programme a déjà évolué. Et même le système d'examination, n'est-ce pas, l'édition, l'examen d'État, ce n'est plus manuel, c'est informatisé. Donc il y a des méthodes, il y a des attitudes, il y a des manières de travailler qui se sont modifiées entre temps, mais pas dans la salle de classe. Les Canadiens qui ont travaillé pendant 10 ans pour essayer de réformer leur système éducatif, ils ont mis l'accent sur la logique de la compétence. C'est-à-dire que chaque enfant a en lui des compétences qu'il faut réveiller, qu'il faut donner forme. Mais je crois que dans l'école congolaise, malheureusement, les enseignants ne sont pas encore, en tout cas pour la plupart, suffisamment outillés pour ce métier-là.
Ils ne sont pas outillés ou bien ils ne sont pas mis dans les bonnes conditions pour...
Je n'ai pas le même dire les bonnes conditions parce que ça c'est tout le temps qu'on parle des bonnes conditions et ils ne viennent pas. Ils ne sont pas encore venus. Ni les enseignants, ni les élèves. Il n'y a personne qui est dans les bonnes conditions. Même pas le préfet ou les inspecteurs, tous le corps d'inspection. Quand j'étais à l'EPSP à l'époque, même à l'enseignement supérieur universitaire, j'avais voulu qu'on rouvre l'école de l'IPSEP qui était à Kisangani, pour qu'il y ait remise à niveau, comme c'était la vocation du CIDEP, qu'on a désacralisé, n'est-ce pas, la vocation de l'INPP, voyez, pour remettre les gens au niveau. Le programme de pédagogie universitaire pour l'université, n'est-ce pas, pour les professeurs, devrait rester en vigueur. Mais tout ça, ça existe comme un véhicule qu'on a fabriqué, qu'on a mis de l'essence, on a laissé la clé des contacts et sans la tourner.
Merci, professeur. Jean Bosco Pouna. Le niveau a vraiment baissé. Est-ce que l'enseignant lui-même n'est pas responsable? Il n'est pas pour quelque chose dans cette baisse du niveau de l'enseignement en RDC?
Oui, les responsabilités sont partagées. Mais il faut rappeler ici que les pouvoirs organisateurs de l'enseignement, c'est l'État congolais. Ce n'est pas l'enseignant. Et donc, l'État congolais est le premier responsable de la débâcle du système éducatif congolais. Je suis content que les propos puissent rejoindre les propos de tout à l'heure, puissent rejoindre les préoccupations du SINECAD, parce qu'en fait, ça dément presque ce que le directeur provincial est en train de dire. Nous tous, nous sommes sur terre. Nous comprenons les difficultés que trouvent nos élèves, que ce soit en français ou encore en branche spécialisée. Mais en tant que syndicat, nous faisons notre l'adage d'Alain qui dit « L'enfant vous sera reconnaissant de l'avoir formé, il vous méprisera de l'avoir flatté ». Aujourd'hui, on est en train de flatter tous ces enfants en leur donnant des diplômes. Mais pour qu'en faire? Parce qu'en fait, nous avons besoin que ce pays soit pris en charge demain par notre jeunesse. Si on ne met pas les conditions de travail nécessaires pour que l'enseignant, l'inspecteur puisse travailler, eh bien, je dois vous dire que nous n'aurons pas demain des gens qui vont devoir construire la société. Et je vais terminer pour dire que on a remis en cause la trilogie de l'action inspectorale. Vous savez que les inspecteurs sont là pour former, pour contrôler, mais pour évaluer. Il faut réhabiliter l'examen d'État. Il faut confier l'examen d'État à l'inspection et non au cabinet politique. J'ai parié que le directeur qui visiblement défend le ministre, il fait du bon travail, mais nous devons continuer à revendiquer les bonnes conditions de travail pour que nous fassions un travail important aux yeux de la nation et aux yeux de ses parents qui nous confient leurs enfants. Aujourd'hui, cette école-là idéale à laquelle on fait allusion n'existe pas.
Merci Jean Bosco Funa. Je vais prendre quelques réactions des auditeurs venant à Bélo de Mata du Congo. Je pense que si l'enseignement est en baisse en RDC, c'est parce que la situation des enseignants est vraiment précaire. Une fois que les conditions socio-professionnelles de ces derniers remplies, ils seront plus motivés à dispenser un enseignement de qualité aux élèves. C'est seulement en ce moment-là que nous pouvons nous attendre à des résultats de qualité aux épreuves des examens d'État. Jean-Baptiste, un parent et enseignant de Kinshasa, je pense que le système à choix multiples a fait ses preuves aux épreuves de l'examen d'État, mais maintenant, celui-ci doit être récompensé, repensé plutôt fondamentalement, car il a montré ses limites. Blanchard, Luana Dembandaka, l'Équateur, les irrégularités que dénonce le syndicat sont sincèrement fondées. Je pense que l'État doit immédiatement chercher à mieux payer les enseignants et surtout à lutter efficacement contre la corruption et d'autres abus qui ont élu domicile au niveau de tous les secteurs éducatifs. Monsieur Fabien, vous qui êtes l'agneau, comment vous jugez l'enseignement aujourd'hui en RDC?
Madame, moi je suis très content de d'avoir participé à ce débat, mais je juge l'enseignement sur une bonne lancée. Vous savez, madame, il y a le professeur Véritone qui venait de faire allusion aux objectifs de l'enseignement primaire. Hein, savoir lire, écrire, calculer et la connaissance du milieu pour un enfant qui termine la sixième année primaire. Mais madame, est-ce que vous avez déjà vu dans ce pays un enfant qui termine la sixième année primaire qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire et qui ne connaît pas son milieu?
On a le professeur Machère qui donne cours à des étudiants qui ne savent pas écrire.
Non, là n'est pas un problème. Au niveau des
c'est
étudiants,
pas un problème.
C'est une autre chose. Mais
non,
au niveau de l'enseignement primaire, l'enseignement qui nous concerne, moi je confirme que la plupart de nos enfants savent très bien lire, savent très bien écrire, savent très bien utiliser les outils mathématiques et connaissent mieux le milieu qui les entoure.
Mais monsieur,
au niveau du secondaire, mais nous avons tenté l'expérience lorsqu'on avait, l'année passée, lorsqu'on avait disqualifié, tel qu'on l'a dit là, les élèves de 6e. Quand nous les recevons, comment ils s'expriment? Comment ils s'expriment, ces enfants-là? Les enfants congolais sont très intelligents, n'est-ce pas? L'autorité ministérielle a mis en place des mécanismes pour essayer, tant mieux que mal, de réhabiliter l'enseignement. Je pense que nous devons être conséquents. Bien sûr, il y a encore des problèmes. Il y a beaucoup à faire. Tel que Pouna évoque les conditions sociales de l'enseignant. C'est bon. Mais nous n'allons pas débattre de ces problèmes en liant la chose aux conditions sociales de l'enseignant. Ce sont les performances pédagogiques, la production pédagogique, le rendement pédagogique des enseignants qui nous intéressent et des élèves.
Et
nous avons l'information. Nous savons vérifier comment se comportent les diplômés congolais à l'étranger. Tous ces pays qui se disent pays émergents. Mais lorsque nos enfants vont là-bas, comment ils se comportent?
Monsieur Betouken, vous expliquez là, nous sommes presque à la fin de notre émission. Je vais vous demander de conclure. Donc, pour vous, le niveau de l'enseignement est en train de s'améliorer en RDC.
Est en train de s'améliorer en RDC. Plusieurs efforts ont été fournis, n'est-ce pas? Et cette année encore, 2010-2011, nous allons commencer avec la stratégie du développement du secteur de l'EPSP. Il y a plusieurs textes qui arrivent.
Merci.
Qui vont davantage consolider le système.
Merci. Merci, monsieur Fabien Bouetoukelamio. Jean Bosco Puna, en un mot, qu'est-ce qu'il faut pour améliorer l'enseignement en RDC?
Pour améliorer, je parle beaucoup plus de cette prestigieuse évaluation. Il faut la rigueur, il faut une rotation, changer les inspecteurs, c'est pas toujours les mêmes. Il faut bien payer les enseignants et les inspecteurs, pourquoi pas.
Merci.
Et il faut laisser l'examen d'État à l'inspection.
Merci, professeur Massi. Alors, on aime aussi.
C'est l'inspection, parce que c'est de l'évaluation. Il faudra requinquer. Il faudra de nouvelles méthodes d'enseignement. Et je suis content du travail du ministre. mais il y a encore un pas à franchir.
Merci professeur, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe du Dialogue entre Congolais, Guy Mathieu Alain, Hong Samuel Kachap, sous la supervision de toute l'équipe de La Mondo. Merci à Minikin Doucheté, à la technique, au micro, Kéline Couté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radio-okapi.net. Bon suivi de programme à tous et merci à tous les auditeurs d'avoir participé à cette émission. Au revoir.